Cher Moll, deuxième partie, chapitre 5. Un matin, Dosia arrivait chez Lucie. Des rideaux épais cachaient les deux fenêtres, et par les fentes, un jour brumeux entrait en rayons gris. Ils s'étalèrent en éventail au coin de la chambre, éclairaient vaguement le canapé presque disparu sous un entassement de jupons, de robes à volants crottés. Partout, dans la vaste chambre, un grand désordre, une complète insouciance d'embellir l'aspect des choses. Le globe de la pendule renversée gisait à terre, calé entre deux chaises. Une eau savonneuse y stagnait. Sur la cheminée, des épingles, des allumettes, de menus bijoux en argent. Sur un guéridon, un fichu de dentelle, cachant la soie d'un parapluie. Un corset noir à piqûres jaunes, une houppette. Il y avait encore un livre rouge, des romances, la photographie de Judic, un flacon coiffé de peau blanche. L'absence de l'homme, l'indifférence de la fille pour cette chambre, où elle ne faisait que dormir, s'affichait jusque sur la toilette. Des serviettes sales, une natte de cheveux hérissée d'épingles, une éponge s'y affaissait. Au fond, dominant ce désordre, le lit apparaissait à demi voilé sous des rideaux blancs, et, la tête enfouie dans la mollesse de l'oreiller, Lucie Tirage dormait, souriante, les bras étendus, la peau moite, les seins à l'air. Doucement, Dosia se glissa près d'elle, puis tout à coup, avec une brusquerie espiègle, elle lui dit dans l'oreille « Oh, la grande fainéante !» Lucie, d'abord, eut seulement une moue renfrognée. Elle souleva ses paupières lourdes et murmura « C'est toi ?» Puis elle referma les yeux, en maillotant sa face dans les couvertures. Dosia, la voyant prête à dormir encore, courut à une fenêtre, à l'autre, tira les rideaux, inonda la chambre de lumière. Et revenue vers le lit, elle prit à deux mains la tête de Lucie, se mit à l'embrasser très vite dans les cheveux, sur la bouche, sur le front. Bientôt son amie entr'ouvrit les yeux avec une grimace boudeuse, et maintenant, la tête un peu relevée, les poings ramenés sur les sourcils, elle bâillait. « Oh, comme je suis fatiguée !»« Pourtant, tu as assez dormi, voyons, il est midi moins le quart. Lève-toi, dis, tu veux, nous irons à Blangy canoter un peu. »« Canoter ? Des prunes, ma fille, et qui est-ce qui ramera ? Tu sais, moi, je n'en veux plus. » « Oh, n'aie pas peur, ce ne sera pas toi. »« Et qui, alors ?»« Ah, ça, je ne veux pas le dire. »« Oh, c'est ça, dis tout de suite que tu veux me faire aller avec un type. »« Eh bien, merci, tu vas bien. »« Allons, voyons, ne te fâche pas, c'est pas du tout, d'abord. » Elle s'expliqua. Un officier, Émile, un beau brun, lui avait fait des propositions de vie commune. Il était très chic, offrait sans cesse des robes, des bibelots, un tas d'objets chers. Aujourd'hui, il l'allait emmener pour faire une partie de canotage, et craignant que sa petite Nina n'eût du chagrin toute seule, elle était venue la chercher. « Mais si ça t'embête tant que ça, tu sais, je m'en vais, et puis voilà tout. »« Oh, ça ne m'embête pas, voyons, seulement j'ai été tuée quand tu m'as dit en arrivant que tu venais me chercher pour canoter avec des types. Moi, je croyais que tu voulais me coller un amant. »« Eh bien, et après, où donc que serait le mal ? Dis, t'as pas envie de rester toujours comme ça, à faire ta bégueule, peut-être ? » ?»« Moi, pas du tout, seulement je ne veux plus coucher avec des hommes, voilà. »« Et pourquoi ? » Tiens, parce qu'ils sont trop cochons, et puis je suis malade, je veux pas crever pour leur plaisir. » « De quoi malade ? Mais il y a longtemps que t'es guérie, ma fille. Tu sais bien que le médecin te l'a encore dit l'autre jour. Ben vrai, je fais bien la noce, moi. Pourtant, j'ai été encore plus malade que toi, bien sûr. » « Oh, plus que moi, faudrait voir, objecta Lucie. Et longuement, les deux femmes discutèrent cette question. Le souvenir des souffrances passées leur était un bonheur d'en être enfin délivrés. « Oui, oui, mais c'est pas tout ça. Sommes-nous bêtes avec nos histoires ? Viens-tu, oui ou non ? Dis !»« Mais non, là, je ne veux pas retomber malade. Mais tu sautes. Tiens, laisse-moi tranquille. Ainsi, aujourd'hui, si tu voudrais, tu pourrais faire un riche coup. Et Dosia, avec des enthousiasmes, exhiba les avantages de la bonne affaire qu'elle proposait. Un ami d'Émile, officier aussi, Charles, un garçon très riche, s'était amouraché de Lucie. Nina le connaissait bien, c'était celui qui buvait toujours des menthes à l'eau. Mais Lucie Tirache aussitôt se récria. Non, elle ne voulait pas. Elle était très heureuse dans son actuelle position. Elle serait certainement beaucoup plus mal avec toujours un homme sur le dos. Dosia riait. Bah, tu verrais bien quel plaisir que t'aurais. Et puis, tu sais, si ça t'embête de chanter, tu pourras lâcher le cornac. Charles paiera ton dédit, et il te donnerait tous les jours tes 8 francs. C'est rudement chic, ça, tu sais. Il peut bien les garder, ces 8 francs. D'abord, j'ai pas envie de lâcher le cornac. J'aime encore mieux faire ce métier-là que de m'embêter avec un michet. Oh oui, marche toujours. Tu dis ça maintenant parce que ça t'amuse de chanter. Mais moi, ça commence à me scier le dos. Un riche coup. Et je rassure que si Émile m'offrait ça, il n'y a pas de danger que je refuserais. Si tu savais comme je m'embête, ma pauvre fille, dans ce foutu pays. Je fais que de bâiller toute la journée. Eh bien, et Émile, il n'est donc pas drôle? Oh, Émile, il passe la moitié de son temps à travailler, alors il faut pas le déranger. Après ça, c'est Charles qui vient, et puis il cause d'un tas de blagues que je n'y comprends rien. De services, de chiffres, de plans, est-ce que je sais? Puis, quand je leur dis quelque chose, ils se foutent de moi et continuent à causer de leurs affaires. Pauvre chérie, tu vois bien que c'est pas drôle d'être collé comme ça. L'autre renchérit, énuméra toutes ses petites misères. Mais Lucie, s'apitoyant, demanda pourquoi elle ne se passait pas d'homme. Dosia alors se remit à louer ce genre de vie, raconta des parties fines, des voyages, de longues journées passées au lit dans un spasme d'amour. Et de nouveau, elle insistait sur son invitation. Jurait que l'ennui venait seulement de ces trop sérieux entretiens qui cesseraient quand elle serait deux à les interrompre. D'ailleurs, s'il continue, reprit-elle, nous les agacerons tout le temps à parler tout bas à nous deux. Ça met les hommes en rage, tu sais. Ce sera très drôle. Ils sont si bêtes. Oh, ça, c'est rudement vrai. S'ils savaient seulement combien on se fout d'eux. Elles rirent beaucoup. Dosia s'était assise sur le lit. Et elle baisait sa bonne Nina, tâchait à la convaincre par des câlineries. Lucie Tirache, obstinément, refusait. Enfin, elle ajouta. « Non, vois-tu, pas aujourd'hui. Il faut que je me soigne aujourd'hui. C'est demain la visite, et j'ai une peur bleue 2 jours d'avance. »« Tu es folle, tiens. Ah bien, voilà encore quelque chose qui n'arriverait pas si tu voudrais te mettre avec Charles. » Il connaît très bien le commissaire, il le voit tous les jours au café. Ainsi, Émile, il va me faire d'écarter bientôt. Eh bien, si tu voudrais, Charles te ferait d'écarter aussi. Oh, ça, ce serait une rude veine, s'écria Lucie. Et elle insista, demandant si c'était bien vrai. Mais tandis que Dosia répondait, elle déjà n'écoutait plus. Elle se voyait affranchie, enfin, de cette suggestion humiliante, sans avoir à subir, chaque semaine, la blague des carabins, la brusquerie du docteur. Et tous ses ennuis devaient disparaître si seulement elle voulait devenir la maîtresse d'un jeune homme très bien, un officier, un joli garçon. Mais de nouveau, le souci de sa bonne santé l'arrêta. Se coller avec ce type, n'était-ce pas s'exposer à une rechute du mal? Très hésitante, elle donnait à peine une molle dénégation aux instances de Dosia, qui sans cesse lui répétait « Là, vrai, si tu ne veux pas venir, je ne te parlerai plus jamais. C'est pas la peine d'avoir une amie si elle ne veut pas se promener avec vous. D'abord, ça ne t'engage à rien. » « Eh bien, soit, j'irai. Et si tu essayes de me fourrer avec l'officier, tu verras un peu. » « Ah, tu es bien gentille. » dit Dosia, l'embrassant de nouveau. Et elle sauta du lit, supplia. « Allons vite, ma chérie, habille-toi, nous n'arriverons jamais. » Chapitre 7. Lucie Tirache était devenue la maîtresse de l'officier Charles. Elle s'était d'abord donnée à lui par calcul. Cette liaison était un moyen commode de remettre en ordre sa garde-robe usée et d'échapper à l'importune surveillance de la police. Et elle se promettait bien le lâcher après la réalisation de ses avantages. Mais par degrés, à son insu, elle prit goût de cette vie nouvelle. Elle découvrait chez son amant des qualités. C'était un homme distingué, aimable, très gracieux et très beau dans le collant uniforme. Un orgueil de l'avoir conquis. Elle résolut l'accaparer, et pour retenir constamment l'officier, pour lui rendre agréable le séjour de la chambre commune, elle arrangea cette chambre avec un soin minutieux. Les hardes furent pendues dans les placards, les objets de toilette disposés en ordre, les chaises, les fauteuils, débarrassés du fouillis qui les encombrait, luirent d'une propreté soigneusement entretenue. Dans les panneaux, Lucie accrocha des lithographies, figurant des sujets militaires. Elle fixa au mur, près de la glace, une double rangée de râteliers à pipe, et sur la cheminée, entre la pendule et les candélabres, elle posa, en des cadres dorés, la photographie de son amant et la sienne. Au centre du guéridon, le palissandre d'un porte-cigare à musique rutilait, entouré de cartes et de livres. La muraille, au-dessus du canapé, était couverte par une panoplie. Deux sabres, des revolvers, des armes d'Orient. Et Lucie cherchait à tout énodorer, en répandant des fleurs à profusion. Chaque jour de marché, dès le matin, elle allait sur la place du théâtre. Là, elle choisissait longuement des bottes de rose ou d'œillet sous les regards amoureux de Charles, qui prenait l'absinthe au seuil d'un café. Elle-même s'attachait davantage à cet amour. L'officier était désiré par toutes les femmes, et la fille vaniteuse s'apeurait au soupçon que Charles la pourrait un jour quitter. Des ruses savamment inventées, d'assidues prévenances, avaient pour but de le retenir aimant et soumis. Vite, elle avait compris que l'officier ne saurait avoir pour elle les tendresses d'une intime passion. Jeune, vigoureux, il avait besoin d'une femme, un besoin tout charnel, et il voulait surtout être payé de ses dépenses par la satisfaction de son amour-propre. Les compliments que sa maîtresse lui valait, les envies jalouses qui l'excitaient, lui devaient être de captivantes flatteries. Et la fille avait su devenir telle qu'il la désirait. Elle était parvenue, sans effort, à se donner les allures d'une mondaine, habituée aux attitudes élégantes et froides, aux gestes d'une élégante correction. Devant les autres officiers, au beuglant, dans les réunions, elle se montrait réservée, prise de subite pudeur. Elle souriait à peine, en rougissant, aux paroles grivoises. Elle-même parlait fort peu, avec une recherche, et lorsque par hasard elle avait laissé échapper une expression sale, un silence sévère la tenait ensuite durant des heures en punition volontaire. Charles conduisait souvent Lucie dans les lieux d'amusement public, enchantée du prestige qu'elle lui procurait. Le lundi, elle était au théâtre, installée aux secondes loges de face, vêtue d'une robe de soie blanche très luxueuse. Et tandis que tous, curieusement, la considéraient, elle restait très droite, impassible, les yeux constamment tournés ou vers la scène ou vers la loge de son amant. Parfois, seulement, secouée d'une joie folle, elle cachait son visage derrière l'éventail, et, sûre de n'être point vue, elle s'abandonnait, signalant à Dosia les mines rouges et ahuries des bourgeoises. Puis, elle reprenait un air grave, redevenait sérieuse et digne. Aux entr'actes, elle allait attendre son amant dans l'arrière-boutique du pâtissier, tout près le théâtre. Dans la petite pièce soigneusement close, elle s'égayait, riait très haut, se grisait de champagne, semblait vouloir racheter la contrainte qu'elle s'était imposée. D'autres fois, Charles la menait, après le concert, dans les bals champêtres. La foule lui trouvait une morgue invariable. Elle refusait se mêler aux danses, s'épanchait seulement tout bas en moquerie souriante sur l'air gêné des jeunes gens et de leurs grisettes. Mais lorsque l'orchestre avait achevé le quadrille des lanciers, une grande partie du public quittait le bal, et Lucie, restée seule avec les officiers et quelques jeunes riches, conduisait alors une joyeuse sarabande. Toutes ces drôleries d'autrefois la reprenaient. Elle feignait une griserie, et cette griserie, bientôt, s'emparait d'elle toute. Ses yeux s'allumaient, une chaleur lui montait au sein avec des chatouillements. Soudain, elle était obligée à cesser ses gambades. Elle s'asseyait en croisant les jambes, en se penchant pour échauffer le froid insupportable qu'elle sentait au ventre. Un malaise général lui donnait le besoin de remuer sans cesse. Et, quand enfin les musiciens partaient, leur cuivre sous le bras, en roulant des foulards autour de leur cou, elle empoignait nerveusement le bras de Charles, l'entraînait par les routes jusqu'à la ville, dans une fièvre. C'est que Lucie, sous l'influence d'une vie nouvelle, était envahie lentement d'étranges désirs encore inéprouvés. D'abord, pour s'attacher l'amant, elle avait rappelé tous les souvenirs lascifs du sept. Elle avait cherché à provoquer les transports de l'officier, en simulant elle-même de pareils transports. Comme autrefois, elle prenait des poses alanguies, elle regardait l'homme amoureusement dans les yeux. Et, pour lui être plus agréable, elle s'ingéniait à feindre des spasmes éperdus, qu'elle aurait voulu ressentir vraiment. Mais, peu à peu, cette feinte de la jouissance lui avait donné comme un besoin réel. Sa chair, longtemps soumise aux tempérances, s'était pour la première fois éveillée sous le brusque retour de pratiques érotiques. Auparavant, elle n'avait connu de l'amour que la joie de se sentir caressée, adorée, étreinte ardemment. Elle avait ignoré toujours l'évanouissement suprême, et maintenant ses ivresses l'apprenaient enfin. Il lui semblait naître à un monde inconnu d'ineffables plaisirs. Bientôt, la hantise de ses joies, l'attente du moment exquis, devinrent ses uniques préoccupations. Elle ne pensait plus qu'à l'amour, saisie d'un étrange malaise si elle en restait privée quelque temps. Abandon d'elle-même complet, voluptueux, à ce mal. Et à minuit, lorsque le concert s'achevait, Lucie, dans une grande hâte d'arriver chez elle, prenait la manche de son amant, le forçait à courir pour rentrer plus vite. Dans la chambre, la porte à peine refermée, elle se collait à Charles, elle le serrait, elle l'entraînait sur le divan. Puis, le couvrant de son corps, elle mordait ses lèvres goulûment, avait des baisers chauds où leurs langues s'enchevêtraient. Pour apaiser le froid qui la prenait, elle glissait les mains dans les amples manches du dolman. Sous les attouchements fiévreux de l'homme, ses yeux se fermaient, elle renversait la tête, elle se tordait, étirant les jambes, haletait par saccades. Alors, la crise devenait plus forte. C'était comme une pesanteur qui roulait dans son ventre, qui montait, laissant après elle un vide délicieux. Du corsage déboutonné en hâte, les seins jaillissaient. Et toujours l'étreinte devenait plus pressante, jusque le moment où la fille s'affaissait, la bouche ouverte, les yeux noyés, proférant une plainte rauque. Conscience reprise, elle se trouvait sur le lit, à demi déshabillée, aux côtés de Charles, qui la considérait tendrement. Elle l'embrassait encore. Puis, agenouillée sur la couverture, se dépouillant de ses derniers vêtements, de sa chemise qu'elle lançait à travers la chambre dans une rage muette, elle se ruait sur l'officier, l'égratignait, le mordait, irritée par ses aveux d'impuissance. Jusque le matin, elle se roulait ainsi. Puis, lorsque le jour en éveil envoyait des rayons anémiés dans la chambre, Lucie, éreintée enfin, s'abattait vers la ruelle pour s'avachir dans un sommeil lourd. Chapitre 8. Lucie Thirache avait ouvert la fenêtre, et, accoudée à l'appui, elle regardait la place du marché devant elle. L'aube montante blanchissait la silhouette des maisons. La ville dormait. Nul bruit, sinon par instant le roulement d'une voiture, l'écho d'un pas dans le loin. En bas, la place déserte gisait. Un bouquet d'arbres, au centre, semblait une tache d'un vert sombre, frémissante. Tout près la fenêtre, au-dessus des tables à poissons, le toit du marché étale un demi-cercle d'ardoises. Et Lucie, levant les yeux, aperçoit au-delà les bâtiments de la caserne qui limitent la place. Un mur de briques interminable, serti de travées en pierre blanche. Au coin du mur, les barreaux d'une grille fermée contre laquelle un sergent adossé semble dormir. La capote brune où s'enveloppe une sentinelle passe, repasse, d'un pas régulier et lent. Lucie regardait cette grille par où son amant, tout à l'heure, était entré. Elle songeait. Charles allait partir à Dunkerque pour les manœuvres. Elle resterait seule tout un mois. Comme elle s'ennuierait. Plus de balles, plus d'amusement. Fini les caresses, les heures passées au lit, si folles en des étreintes. Avec Charles, toutes les joies allaient s'enfuir. Au loin, le beffroi lance les premières notes de son carillon. Des notes hésitantes et lourdes. « Déjà 5 heures, » pense la fille. « Ils vont partir bientôt. » Dans la caserne, il y eut comme un réveil. Le sergent s'était dressé, il avait ouvert la grille. Et Lucie, se penchant, crut reconnaître son Charles parmi des officiers rangés en cercle dans la cour. Oh oui, c'était bien lui, le troisième à gauche tournant le dos, celui à la plus belle prestance. Elle le vit échanger des papiers avec un gros à jambes courtes, puis entrer bien vite dans le bâtiment. Cependant, une rumeur vague s'élevait, comme un bruit de mouvement hâtif. Des fenêtres s'ouvrant encadraient les têtes ensommeillées de soldats qui serraient leurs gorges en des cravates bleues. Et de nouveau, les clameurs s'apaisèrent. La cour redevint déserte, il se fit un silence. Lucie rentra dans la chambre. Elle examina le lit, les oreillers déjetés, une cigarette oubliée sur la table. Elle se rappela cette dernière nuit, une nuit d'adieu qui avait été un long embrassement. Sans doute Charles, lassé, aurait peine à faire un si long voyage. Mais aussi, comme il pourrait se reposer à Dunkerque, plus de femmes là pour supprimer son sommeil. Le pauvre garçon, lui qui aimait tant se serrer à elle. Elle dormirait seule, elle aussi. Comme ce devait être ennuyeux, ne plus se voir aimer, ne plus sentir en dormant le contact des lèvres fines collées à sa chair. C'était bien fini. Tous deux allaient rester sages durant un mois. Oh, certainement elle resterait sage. Elle n'y voulait point même songer. L'idée d'une infidélité faite à Charles lui paraissait monstrueuse. Elle entendait le bruit gagner la place, grandir. C'était comme des tâtonnements musicaux, des sons de clairons, d'abord très courts, à de longs intervalles, ou sans fin prolongés. Des coups de tambour répétés, une rumeur de pas et de voix. Lucie reprit sa place à la fenêtre. La cour maintenant était envahie. Une foule rouge et bleue s'y pressait. Des commandements étaient clamés. Mais si elle restait seule comme ça, à Arras, lui, peut-être, se collerait là-bas avec une autre femme. Puis, au retour, il la pourrait lâcher, qui sait? Oh, mais non, elle ne le voulait pas. Elle l'irait rejoindre sûrement dans quelques jours, malgré sa défense. On les connaissait, leur défense. Un prétexte pour se débarrasser d'une maîtresse, pour lui faire des queues. Subitement, le tumulte cessa dans la caserne, et bientôt, clairons et tambours éclatèrent, mariant leur son dans une mélopée invariable, qui par instant semblait vouloir s'éteindre et de nouveau renaissait, infinie. De la grille, les lignards débouchèrent dans une marche automatique avec un rythme de pas cadencé, frappant le sol régulièrement. Ce fut d'abord l'avant-garde, une double rangée de soldats à barbe, la nuque courbée sous les rouleaux des toiles à tente. Puis venaient les tambours, qui, du genou à chaque pas, lançaient leur caisse en avant. Puis l'éclairon, enflant leurs joues sur l'embouchure des cuivres. Deux coups de grosse caisse, un court silence, et tout à coup, sous la grille, la fanfare mugit, emplissant la place de sonorités brutales. Le régiment défilait, interminable. Un va-et-vient continu de manches bleues. Lucie voyait les soldats s'avancer, piétiner derrière le bouquet d'arbres, puis tourner, s'engager dans la rue de Châteaudun, à droite. Elle les suivait des yeux, curieuse, apercevait leurs dos alignés, les peaux fauves des sacs, les gamelles brillant sous les premiers rayons de lumière. Oui, certainement, Charles allait faire la noce loin d'elle. Il l'oublierait. Les hommes, c'est si faux. Sans compter que toutes les femmes l'aimaient, lui. Oh, pour sûr, elle le rejoindrait. Et ses yeux revenaient à la grille, dans une impatience. Il ne sortirait donc pas, comme il tardait à passer. Oui, mais s'il croyait se débarrasser d'elle ainsi, il se mettait le doigt dans l'œil, un peu. Ah, ça, mais il ne viendrait donc jamais. Les officiers, courbés sur l'encolure dandinante de leurs chevaux, dominaient les têtes des soldats ficelés de jugulaires, cachetés de rouge. Les lieutenants s'avançaient, les pelisses relevées sur l'épaule, pour laisser libre le balancement du sabre au bout d'un bras galonné. Enfin, Charles passa, flanquant une compagnie. Et, dans un sourire d'adieu, il sembla vouloir, une dernière fois, appuyer ses recommandations. Lucie, d'un signe, le rassura. Elle regarda longtemps, le vit entrer dans la rue, disparaître. Elle rentra dans la chambre, et tout à coup, courut à la table pour vérifier le nombre des louis que Charles et Émile avaient laissés, afin de satisfaire aux créanciers communs et à l'entretien des deux femmes. Un souvenir lui était venu d'avoir bousculé le guéridon dans la hâte de son lever, et très inquiète, craignant qu'une pièce ne se fût égarée, elle recompta l'argent plusieurs fois. Elle pensa qu'on lui avait donné une sale corvée, dont on aurait bien pu charger d'Ozia. Mais, ayant réfléchi qu'elle avait acquis la confiance des deux hommes, elle fut bientôt très flattée, heureuse de surpasser son amie en quelques points. Non, décidément, elle n'irait pas à Dunkerque. Son obéissance justifierait cette confiance qu'on lui montrait. Elle suivrait les conseils de Charles, resterait à Arras, bien sage, sans bouger. Après tout, ce n'était qu'une affaire de 20 jours, au plus. Elle pouvait attendre. Et puis, c'était la promesse d'un libre repos. Et souriante, elle confessa qu'elle en avait grand besoin. Une dernière fois, elle se remit à la fenêtre. Les sons de la musique s'éteignaient. Elle percevait encore les roulements des tambours, la cadence des pas. À l'entrée de la rue, elle vit le dos arrondi du major, coupé d'une bandoulière rouge, la croupe de son cheval que la queue balayait. Elle suivit le cahotement des voitures régimentaires aux bâches vertes tremblotantes. Et la place se vida, reprit un air morne, ensommeillé. Mêlée au dernier bruit lointain du régiment en marche, une rumeur murmurante montait lentement dans la ville. Lucie Tirache se recoucha, dormit toute la journée. Chapitre 9. Après le départ de Charles, on vécut doucement, dans une somnolence béate. Les nuits de spasme avaient épuisé la fille. Ses crises hystériques s'étaient atténuées, plus rares, et ce fut d'abord pour elle un étrange bien-être, dormir seule, longtemps. Elle restait au lit jusque l'heure du dîner. Le soir, elle chantait paresseusement, impatiente de rentrer vite chez elle pour reprendre son sommeil. Elle était vraiment heureuse. Elle n'avait nul souci. Elle ne devait plus orner les meubles, acheter des fleurs et des bibelots, veiller sans cesse à réjouir son amant. Ses rêveries elles-mêmes étaient devenues plus vagues. À peine, par instant, quelques regrets des joies enfuies, et vite, ses impressions s'effaçaient. elle retombait dans sa torpeur satisfaite. Seule, la perspective du retour de Charles lui apparaissait toujours comme un événement désirable. Un jour, bientôt, elle les retrouverait, ces infinis plaisirs. Et sans doute, ce repos absolu durant un mois lui rendrait meilleures les caresses. Ainsi, elle vivait, engourdie, contente. Mais elle fut distraite de cette insouciance par l'arrivée d'un comique engagé pour la saison d'été. Il s'intitulait Cretson, comique danseur, et à la porte du café-concert, il avait fait établir un cadre contenant 18 photographies de sa personne dans 18 poses et 18 costumes différents. Cet homme, aussitôt, était devenu l'ami des deux chanteuses, et Dosia, venant chez Lucie, s'accompagnait toujours de ce collègue nouveau. Décidément, il était très drôle, amusant au possible. Dans une figure vieillotte, ridée, complètement glabre, deux petits yeux clairs sous des arcades sans sourcils. Ses yeux s'écarquillaient en folle grimace sur un nez aplati, souligné d'une bouche énorme, sans cesse remuante. Point d'âge, peut-être point de sexe. C'était dans la chambre de Lucie un esclaffement continu des deux femmes, lorsque Cretson, se promenant de long en large, allant du lit au canapé, agitant ses jambes moulées en un pantalon mauve, sautillant, lâchait un flot de paroles. Il jacassait de tout, il déballait une érudition étonnante. Ses paroles dévalaient sans arrêt, avec des inflexions grotesques, des calembours, une débauche de cris et de gestes. On n'était pas plus drôle. Lucie et Dosia s'émerveillaient, riaient, s'indignaient, craignaient l'interrompre, toutes à l'admiration de ce bagou. Et, lorsque l'homme était parti, après avoir siroté plusieurs verres de punch ou de café, les deux femmes débordaient en éloges. Elles se communiquaient les mots retenus, leurs surprises joyeuses, ressassaient les plaisanteries du comique. Insensiblement, Cretson devint pour Lucie un compagnon nécessaire. Elle avait un besoin de l'entendre toujours. Et la fille eut une vraie douleur lorsque, un beau jour, il quitta la troupe, après une dispute très chaude avec Brognier. Il partit sans même dire un adieu aux chanteuses. Lucie, restée seule encore une fois, voulut reprendre sa vie paresseuse de sommeil et d'avachissement. Mais la société du comique lui avait donné une irrésistible envie d'avoir quelqu'un près d'elle. Elle ne pouvait plus dormir. Elle s'ennuyait affreusement au lit. Son existence lui apparaissait maintenant très vide, d'une monotonie désolante. Dosia elle-même ne la distrayait plus. Cette fille s'était liée avec Madame Brognier, qui, dans une toquade de vieille femme trop chaste, la poursuivait partout et la comblait de cadeaux. Lucie, séparée de son amie, sentait croître encore l'ennui. Un désespoir. Elle sentait naître en elle, et malgré elle, une mauvaise humeur étrange, une alternative constante de subit désir et de subit dégoût, lui faisait craindre que son caractère ne devînt versatile, et, à des intervalles de plus en plus rapprochés, le frisson amoureux la saisissait. Elle comptait les jours. Parfois, elle songeait à lâcher le beuglant pour rejoindre Charles. Elle éprouvait un besoin croissant de l'homme. Chapitre 10. Savez-vous que ça devient assommant, votre baraque, monsieur Huchet? Il n'y a plus un chat. Déclarait un soir Lucie Tirache. « Oh, dame, que voulez-vous? C'est la morte saison. C'est pour moi comme pour vous, n'est-ce pas ?» Elle vint s'asseoir, découragée, aux côtés de Dosia, qui babillait avec la directrice. Elle voulut se mêler à la conversation, mais ces dames échangeaient des souvenirs sur des lieux où elles avaient demeuré, et Lucie fut vite ennuyée, avec un mépris pour son amie, qui servilement écoutait les révélations de Madame Brognier sur Boulogne, une sale ville. Dans un coin, de tout jeunes gens, des collégiens sans doute, fumait d'énormes cigares et s'allongeait des coups de badine sur les jambes. À tous, Lucie, désœuvrée, trouvait un air bête. Elle regardait la salle, passait en revue les murs, les becs de gaz, les tables. Elle héla le garçon, se fit apporter une absinthe, puis ce furent des soins infinis à confectionner le breuvage. Elle leva très haut la carafe, prenant intérêt à voir s'opaliser l'émeraude de la liqueur. Elle chanta à son tour avec une nonchalance, simulant des efforts pour se mettre debout. Puis elle sortit avide d'air, agacée. Dans le café, près l'estrade, elle aperçut, en rentrant, un jeune homme installé. C'était un des habitués les plus bruyants de la bande riche. Dans un grand besoin de conversation, Lucie courut à lui. « Tiens, vous n'êtes pas au bal, vous ? On m'a dit que tous vos camarades y étaient partis. »« Oh non, j'ai pas pu y aller. Je me suis fait une foulure. » Levant la jambe, il montra son pied emmailloté. « Tiens, où est-ce que vous avez attrapé ça ?»« C'est en sautant par-dessus des rosiers dans le jardin de ma cousine. Il y a un parterre qui en est plein. Alors j'ai voulu sauter. » Puis je ne sais pas comment ça s'est fait. Probablement que je suis mal tombée. En voilà une idée aussi de sauter par-dessus des rosiers. Peu, je saute souvent bien plus haut que ça. Oh, mais on a du jarret, vous savez. Et il montrait ses cuisses énormes, étroitement serrées dans un pantalon rougeâtre. Remontée sur l'estrade, Lucie examina le jeune homme avec une admiration pour sa force musculaire. Elle le considérait minutieusement. Là, vrai, c'était un garçon joliment solide. Elle voyait son dos voûté, très large, tendant l'étoffe d'un veston vert, son col épais, sa petite tête, sous des cheveux couleur de chanvre, des mains carrées aux doigts courts, des poignets forts. Oui, c'était un fameux gars. Bien laid, par exemple, avec son nez interminable qui semblait écraser une petite moustache blondasse, et des yeux bêtes, d'un bleu sale, cernés dans des paupières rougies. C'était dommage, un homme si bien bâti. Un désir la reprit de causer. « C'est à vous, cette chaîne? Est-ce qu'elle est en or ?»« Ça !» Et s'approchant encore à l'estrade, il montra l'objet. « Tiens, il y a un G sur le médaillon. Vous vous appelez Georges ?»«
Tout juste. »«
Oh, comme c'est lourd. Ça doit coûter cher, hein ?»«
Je ne sais pas. C'est ma cousine qui me l'a donné. »«
Ah, elle est jeune, votre cousine ?» demanda Lucie, intriguée de voir ce nom revenir sans cesse dans les discours de l'homme.
« Ah oui, jeune. C'était comme on l'entendait. Pour une corneille, c'était l'adolescence. » Enfin, elle avait 52 ans.
Ils rirent beaucoup. Une familiarité naissait entre eux.
« Prenez-vous quelque chose ? » offrit-il.
« Volontiers. Jacques, une fine. »
« Et à moi, une chope, oui, une chope. »
Lucie interrogeait Georges sur ses camarades ordinaires. Lui, tout en buvant, donnait des détails. La fille était charmée de l'entendre accuser l'un et l'autre. Il devait avoir raison. Tous, maintenant, lui semblaient ridicules. Georges, tout à coup, lui dit
« Mais vous devez joliment vous embêter, ici, maintenant. »«
Oh, pour ça, oui. » Elle narra ses ennuis sans fin. Son amant était parti aux grandes manœuvres, elle restait seule avec Dosia, dans un trou comme Arras, une ville infecte.
« Bah, c'est parce que vous ne savez pas vous y amuser. Moi, toutes les après-midi, je vais en voiture à la campagne, à Beaurain, vous savez, dans la propriété de ma cousine. Elle n'y est jamais. Ça fait que je m'amuse tant que je veux. Vous devriez bien venir avec moi un jour. Ça fait que ça vous distrairait. Voulez-vous que nous y allions ensemble demain ?»«
Eh bien, et mon amie, je ne peux pas la laisser seule. »«
La grosse, là-bas, Dosia ?»
« Eh bien, vous l'emmènerez. Plus on est de fous, plus on rit. » Dosia, consultée, ne demandait pas mieux. Seulement, elle craignait d'être vue, avait peur qu'on ne racontât l'histoire à Émile et à Charles.
« Bah, ils n'en sauront rien. Et puis, d'abord, il n'y a pas de mal. »
Elles acceptèrent avec un remerciement.
« Alors c'est entendu, n'est-ce pas? Demain à 2 heures, à la porte Ronville. Bonsoir. » Lorsqu'il fut sorti, les deux femmes se regardèrent un instant. Et Nina, devinant une question dans les yeux de sa compagne, la rassura en riant. « Oh non, alors, il n'y a pas de danger. Tu ne l'as donc pas regardé ? Oh non, il est trop laid, et puis trop bête !»